Donc bonjour, alors à l'occasion de la sortie du dernier volume de la série De Cap et De Gros, donc nous sommes en compagnie de Alain Hérol et de Jean-Luc Masbou. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer simplement, alors pouvez-vous nous retracer votre parcours et nous indiquer ce qui vous a amené à faire de la bande dessinée?
L'envie de dessiner et de raconter des histoires.
Ouais, pareil, ouais. À peu près l'âge de 9 ans, l'âge de 9 ans. Un jour, je me suis dit, je serai auteur de bande dessinée. Non, dessinateur de bande dessinée, je me suis dit, je connaissais pas le terme auteur de bande dessinée, j'étais trop petit. Et depuis, ça m'a jamais lâché. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé d'être ça, plutôt que pompier. Avant, je voulais être pompier, après motard de la route, enfin, policier avec une moto, et puis après. Non, après pilote de chasse. Et après auteur de bande dessinée. Et je sais pas pourquoi, j'avais envie de raconter des histoires, je m'étais aperçu, je crois, à la maternelle, que c'était vachement rigolo et on se faisait moins casser la figure à la cour de récré quand on racontait des histoires à ses potes et quand on les faisait rigoler. Et comme j'aimais bien dessiner, bah, c'est venu tout seul et je lisais des bandes dessinées. Je sais pas comment l'alchimie s'est faite, mais voilà.
C'est moins dangereux que. Le policier par exemple, ou motard, ou pilote de chasse.
Peut-être. Ouais, c'est moi. Je pensais pas au danger, non, j'ai trouvé ça fun, je sais pas pourquoi du tout j'ai décidé de raconter des histoires. Je faisais en plus pour moi, principalement quand je faisais des BD. Si, je sais pourquoi, ouais. Parce qu'en fait, il y avait des séries télévisées qui passaient quand j'étais petit, et j'avais pas la patience d'attendre une semaine ou un mois de voir la suite, donc du coup je l'inventais moi-même. Voilà, en fait. J'aurais pu faire du cinéma, hein, mais non, comme j'aimais dessiner, ça m'a jamais quitté ce truc-là.
Puis on en lisait aussi des bandes dessinées quand on était gamin, donc ça nous a influencé.
Voilà.
Alors justement, en parlant d'influence, qu'est-ce qui vous a influencé dans la façon de rendre les histoires, dans votre façon de dessiner? Quelles sont vos influences?
Ouf. Alors là, je
me disais,
qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
Moi, d'abord les classiques. Enfin, moi, en tant que scénariste, c'est évidemment Goscinny en premier, quoi. Mais c'est aussi Gottlieb, c'est aussi Le Cureux et Chéré pour Rahan, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin, ou Pratt aussi, très tôt, j'ai découvert Pratt. Ça passait dans le pif.
Ouais, moi c'était Valérian, qu'est-ce que j'ai vu comme.
Oui, Valérian aussi.
Moi c'était Drouillet, le premier. Ouais. Mon mentor, c'était, il le sait pas, mais c'était Drouillet. Le premier qui m'a vraiment flashé, quand j'ai commencé. Quand on quitte le dessin, juste on dessine soi, avec son propre style, qui est tout pourri, parce qu'on est tout jeune et qu'on sait pas trop dessiner. Et le premier qui m'a donné des influences, où je me suis mis à pomper comme un fou, c'était Philippe Drouillet. Après, j'ai découvert les illustrateurs anglais comme Brian Froud et Landy, et puis après, il y a le cinéma, il y a plein d'autres choses qui viennent se mélanger. Tellement de choses qu'après, au bout d'un moment, on peut plus les compter, quoi.
Voilà. Donc bon, oui, enfin en gros on a commencé par les classiques et puis après on a découvert des auteurs plus récents. Mais je sais que pour le scénario aussi, après quand j'ai découvert Alan Moore, ça a été une claque et une grande influence pour moi.
Donc plus précisément par rapport à la série De Cap et De Croc, il y a une grosse influence du théâtre. Et comment s'est formé comment a germé l'idée de cette série en fait?
La série, elle a germé au cours d'un jeu de rôle. On avait créé un jeu de rôle qui s'appelait Contes et Racontars, dans lequel on faisait un mix de contes de fées, d'histoires de pirates, de mousquetaires, et dans lequel on pouvait jouer à peu près n'importe quel type de personnage. On pouvait très bien jouer.
Un cheval.
Oui, on pouvait, mais on l'a pas fait, mais on pouvait.
il y avait ce jeu de rôle à la base.
Un éventail ou n'importe quel type de personnage comme ça.
On s'est dit qu'on pourrait adapter cet univers-là en bande dessinée. En fait, de l'univers, on a gardé finalement surtout les personnages qu'on a transposés dans un contexte plus historique, plus 17e siècle, plus de cap et d'épée. L'orient plus vers le récit de pirates, d'aventures
épiques. Aussi,
Oui, il y avait aussi des films, il y avait beaucoup. De toute façon, il y a eu des tas d'influences diverses et variées, qu'elles soient cinématographiques, littéraires, théâtrales ou de bande dessinée. Ça a été. Et de Cap et De Croc, c'est toujours nourri à beaucoup d'influences et émaillé de nombreuses références à des genres très très divers. mais tout en conservant une cohérence, parce que le récit est c'est un récit qui est avant tout un récit d'aventure avec des péripéties, des coups de théâtre, de l'action, du suspense, de la romance, de l'émotion et une bonne dose d'humour, puisqu'on a quand même des personnages qui passent leur temps à faire les pitres.
Effectivement. Et donc justement, en revenant un peu aux personnages, pourquoi avoir choisi de les mettre sous des traits d'animaux, du moins pour les héros de la série?
On ne s'est même pas posé la question, en fait ça s'est imposé, c'était les personnages que l'on jouait dans les parties de rôle, donc du coup on n'avait pas du tout envie de les changer.
Voilà, et puis une sorte d'évidence, puis c'était amusant, ouais. Puis ça crée un petit côté absurde, ça donne un petit côté absurde à l'histoire, puisqu'on a affaire à, non pas une bande dessinée animalière où tous les personnages auraient des traits bestiaux, mais y a certains animaux, au milieu d'un univers peuplé d'humains, on a certains animaux qui sont doués de parole, qui se tiennent sur leurs pattes arrière et se promènent l'épée au côté, et qui font des alexandrins. Donc ça, déjà, à la base, on se demande pourquoi, et ça crée un postulat absurde dans cet univers, et puis ça, c'est générateur de nombreux gags et situations cocasses. Ça, c'est...
Ce genre de situations cocasses et de gags dans la bande dessinée, on a gardé le même esprit, notamment avec Zeb le lapin, quoi.
Le lapin en galère, déjà rien qu'en ouais. Soi, le fait d'avoir un petit lapin blanc sur un bandonnage de galère entouré de gros galériens tatoués, forcément c'est. Voilà. Rien que l'image est drôle en soi. Quoi. Donc à partir de là, ça permet de créer des tas de situations. Ouais. Puis là maintenant, on se pose même plus la question parce que c'est devenu tellement naturel pour nous.
Voilà, puis quand les gens l'ont accepté, du coup, bah, hop là, voilà. On s'est peut-être posé la question au début, se dire non, même pas, non, je crois pas. Quand on s'est dit on va mettre le Zeb aux galères, ils sont dans le nez. On s'est même pas posé la question de se dire est-ce que les gens vont tiquer là-dessus.
Non. Ça nous a juste fait marrer.
Ouais.
Là, je pense que les lecteurs aussi ont. Bah, j'imagine ont apprécié justement le décalage, c'est ce ouais. Qui a fait aussi le,
oh, ça fait, bah,
le succès de la série.
Bah, en tout cas, ça donne une certaine originalité, parce que c'est vrai que c'est. Puis on pousse le délire assez loin, puisque au fur et à mesure des histoires, on a des personnages de plus en plus étranges, puisqu'on va côtoyer des poulpes affectueux, des cailloux mobiles. Donc à partir de là, et des notes de musique qui volent, et des cornemuses aussi. Oui, la cornemuse qui vomit. Cherchez bien, il y a une cornemuse qui vomit dans le dernier tome. Vous n'avez pas vu, c'est Jean-Luc qui a glissé au détour d'une case. J'avais pas vu au départ, j'ai vu après.
Ouais, et au bout de moi, je sais même plus si c'est toi qui l'as mis à l'écoute.
Je regardais. Enfin, non, il y avait la cornemuse. Bon, on la voit boire d'abord, la cornemuse.
Oui, après.
Donc, il faudra bien la. De relire et
il y a beaucoup de petits détails, on s'amuse à farcir les cases de petits détails. Il y a toujours des petites scénettes à l'arrière-plan de l'action principale.
On a un fan club sur le forum de gens comme ça qui s'amusent à décortiquer tout, donc du coup, au bout de moi, quand ça s'aperçoit que ça marche. Enfin, non, on le faisait déjà à la base. Donc du coup, quand on le dessine, on se dit tiens, c'est marrant, ça y est, à mon avis, ils vont remarquer ceci, cela, le reste. Il y a 10 ans ou 15 ans plus tard, ils retrouvent encore des références 15 ans plus tard, alors qu'ils ont lu l'album, ils le connaissent par cœur. Au bout de la 10e lecture, ils arrivent à « Ah ouais !» Et puis tout le monde arrive derrière et dit « Ah oui, tiens, moi non plus, je ne l'avais pas remarqué. » Donc, voilà, ce genre de truc avec la cornemuse qui vomit, il y en a un, ça n'est farci.
Voilà, cette fois-ci, pour revenir un peu plus à l'histoire en elle-même, pourquoi est-ce que vous êtes allé sur. Pourquoi est-ce qu'une grande part de l'aventure se déroule finalement sur la Lune? Est-ce que c'était prévu au départ? Est-ce que ça s'est imposé?
C'était prévu dès le départ et c'est. C'était une destination évidente pour. À partir du moment où on a des escrimeurs qui parlent en vert, on pense tout de suite à Cyrano. Ce qui dit Cyrano dit voyage dans la Lune, et donc il y avait toute une. Toute une zone du fantastique du XVIIe siècle qui était convoquée et le voyage sur la Lune en faisait partie.
Et donc pour revenir, donc il y a l'intrigue, mais donc ce qui tient en haleine finalement c'est pas tant l'histoire en elle-même, bon, ça en fait partie bien entendu, mais la façon dont les personnages s'expriment finalement. Donc, comment est-ce que vous avez... Est-ce que c'est difficile de rendre... Est-ce qu'il y a un double travail, je dirais, de passer d'un parler courant à parler un peu plus... Enfin, qui fasse un peu parler d'époque.
Dans deux cas un peu de cours, tous les personnages s'expriment à peu près de la même façon. Ils s'expriment tous dans un langage qui est proche de celui du XVIIe siècle, avec un niveau de langage assez soutenu, même si c'est parfois pour dire des énormités. Mais... non, c'est un peu la marque de fabrique de la série, quoi. C'est
même Zeb. Oui, je pense que Zeb est plus naïf.
Il s'exprime de manière naïve, mais tu regardes, il s'exprime de manière, il s'exprime fort correctement, Zeb.
Ouais, il sait pas ce que veut dire l'IMES, par exemple, par contre.
Non,
il a
quelques lacunes.
Ouais, c'est le seul qui a des
lacunes. Mais non, parce que vous avez, chacun, même les pirates, et même les pirates qui s'expriment, qui ponctuent leurs phrases de jurons terribles, sont quand même très, très lyriques aussi. Puisque,
oui, dans les paniques.
Notamment quand ils paniquent.
Et est-ce que la façon dont s'expriment les personnages, pour vous, est-ce que c'est un frein ou est-ce que ça vous permet de faire des envolées justement lyriques?
Non, c'est pas un frein. Le seul danger, c'est d'après, ça fait de très gros phylactères qui sont difficiles à faire entrer dans les pages. Non, mais faut pas. Le danger, c'est aussi d'alourdir le récit, de rendre le récit indigeste. Donc faut savoir ne pas trop en faire aussi.
Et donc la série se termine avec ce volume 10. Et est-ce que ça n'a pas été trop dur d'y mettre un terme, de quitter ces personnages ou
Tu veux pas que ce soit moi qui réponde. C'est terrible, c'est affreux. Oui, c'est assez dur. Hein. On avait beau s'y faire déjà. Déjà, le tome précédent, Alain voulait que l'histoire se termine au tome 9. Et puis, moi, quand il m'a annoncé ça, je l'ai amené dans un restaurant pour qu'on mange des pieds de porc vinaigrette et qu'on boive une bonne bouteille de rouge pour essayer de le dissuader, de lui dire non, c'est pas possible. Puis, du coup, j'ai réussi à le faire changer d'avis. Mais il y avait trop de choses à raconter, en fait, il fallait bien un tome de plus. Ouais. Parce qu'il y avait tellement de choses à raconter, en plus, comme généralement, on aime bien, enfin, on a des. On était sur la Lune, on a un récit qui est très riche et on avait encore. On peut pas se permettre juste de raconter une histoire sans développer tout ce qui est autour. La plupart des personnages ont pris une vie propre, c'est même eux des fois qui nous dictent ce qu'il faut faire. On peut pas s'empêcher quand Alain va raconter une scène avec Bombastus, forcément que Bombastus va partir à un moment dans une grande explication qui va prendre plusieurs cases, voire plusieurs pages. Donc du coup, voilà, dès qu'on commence à raconter un truc avec les pirates, il y a forcément ou une panique, ou une chanson, Bombastus, une explication scientifique, et ainsi de suite. Donc là, on se retrouvait avec le tome 9 chez les Mimes des Bois, et là, on s'est dit, non, c'est pas possible, les Mimes des Bois, faut montrer comment il vit, un minimum, et puis c'est un plaisir à chaque fois.
Il y a aussi un côté documentaire dans le Café de Cours.
Ouais, voilà, ouais, c'est une sorte de National Geographic sur la Lune. Donc du coup, il fallait un tome 10 pour clore ça. Et même quand il a commencé, il commence toujours les albums de la même façon, en se disant j'ai pas suffisamment d'idées pour tout boucler. Et au fur et à mesure, il en trouve suffisamment pour faire même un tome limite supplémentaire. Donc là, le tome 10, ça a failli être ça. À la fin, il fallait réussir à tout raconter. Et c'était quand même pareil, limite. Hein, parce qu'à chaque fois... Si on a une scène d'abordage, on ne peut pas faire ça en une demi-page, c'est pas possible. Donc on se laisse emporter par l'aventure et par le plaisir aussi qu'on sait que le lecteur va avoir.
C'est une bande dessinée qui se veut spectaculaire. Quoi. Il faut des grandes cases, il faut des scènes d'action. Scènes d'action, c'est très gourmand en place, en nombre de cases. Dès qu'on décompose un peu une action, ça bouge de la place.
Donc même si je m'y attendais, moi, c'est vrai que ça a été dur de me dire c'est la dernière fois que je dessine le loup et le renard.
J'ai eu un gros pincement au cœur à la fin.
Même si je peux continuer à faire des illustrations, ça sera pas la même chose. Ouais. Voilà. Quand j'étais chez moi en train de dessiner, j'avais les enfants derrière, ma compagne qui était en haut, et je disais c'est la dernière fois que j'entre, un peu comme dans les films, quand tu vois un bonus de film, où c'est la dernière scène de Ian McKellen, tout le monde se met à applaudir, et là c'était pareil, voilà. Arrivé, ouais. Là c'est la dernière fois que j'entre aux ailes le lapin. Derrière j'avais mon gamin qui disait ah bon. Comme ça toutes les demi-heures, à chaque fois qu'il y avait un personnage que j'ancrais pour la dernière fois. Donc, ouais. c'était, ça continue à être dur, hein, parce que ce soir, on a une fête qui est prévue pour la sortie. On a des acteurs de Capello Crew qui viennent pour faire de l'animation. Et du coup, c'est des gens qu'on va pas forcément revoir après pour dans les mêmes conditions. Mmh. On le sait, c'est devenu des amis, mais ils joueront peut-être plus jamais les personnages. Et puis, la façon dont on nous parle de cet album, c'est la dernière fois que... Même si on sait qu'après, il va y avoir un diptyque avec Zeb, il faut quand même... C'est un univers qui s'arrête, une aventure qui s'arrête, des personnages qui vivront peut-être jamais plus, très certainement d'ailleurs. Donc oui, c'est dur, ouais. mine de rien, c'est dur.
Et donc, par rapport au théâtre, donc il y a eu des pièces de fait par rapport à la série, justement, des adaptations. Est-ce que vous avez eu un droit de regard sur ce qui se faisait, ou est-ce que vous avez laissé les troupes
Moi, à la toute première adaptation théâtrale, moi j'avais assisté aux premières répétitions, mais j'étais pas intervenu, je regardais ça, j'étais fasciné de voir les personnages prendre vie. Ensuite, non, on a été surpris de voir le résultat final, et on a été ravis surtout de voir ça, quoi. À chaque fois, c'était des parties pris de mise en scène et de jeux d'acteurs différents, mais à chaque fois, c'était un régal de voir des comédiens endosser les costumes de nos héros.
Et donc, je voudrais passer à votre collaboration. Comment est-ce que vous travaillez, comment ça se passe au niveau de la réalisation d'un album? Est-ce que vous allez continuer sur d'autres séries éventuellement après?
On va continuer sur le diptyque de...
Déjà.
Déjà, de Zeb. Et comment ça se passe? De mieux en mieux. Parce qu'on était déjà très très bons copains. Avant, parce qu'on était au Beaux-Arts, on a fait les Beaux-Arts d'Angoulême. Donc du coup, on se connaissait déjà bien, et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble.
On se connaissait avant de bosser ensemble.
Ouais, voilà, au niveau de l'imaginaire, on a les mêmes références, on aime les mêmes choses. Donc du coup, c'est relativement facile de bosser ensemble. Parce que c'est pas parce qu'on se connaît, c'est pas parce qu'on est copains que c'est facile, forcément. Voilà, j'ai déjà travaillé avec d'autres personnes, moi, en tant que scénariste, c'est pas forcément évident de trouver une alchimie. Mais avec Alain, ouais, ça c'est... toujours très bien passé.
Il y avait beaucoup d'échanges.
De temps en temps, ouais, des petites engueulades de vieux couple, mais ouais. ça c'est normal, c'est même rigolo, à la limite, ça permet de... Des fois, ça permet d'avancer. De donner des idées, on n'est pas du tout d'accord. Donc on s'engueule, on fait comme Obélix et Astérix. Voilà. On reste chacun de notre côté de la route pendant un quart d'heure.
On devient tout rouge.
Ouais, on est tout rouge.
Et en fait, il y a beaucoup d'échanges. Et moi, quand j'écris l'histoire, avant même qu'elle soit écrite, vraiment sous forme de texte, elle est d'abord racontée, je la raconte à Jean-Luc, mais en général, en lui racontant, lui il intervient quand je lui raconte, puis ça me donne des idées en lui racontant, en voyant, je vois aussi ce qui marche, ce qui marche pas, lui il me redonne des idées, puis j'y réfléchis, puis je raconte une deuxième fois, puis à chaque fois c'est comme ça pour les albums, il y a toujours eu plusieurs montures et plusieurs récits.
Ouais. Ça je trouve ça bien.
Hein. Ouais, c'est sympa ça.
Parce qu'en fait, on est auteurs tous les deux, on a toujours eu envie de dessiner, mais aussi de raconter des histoires, donc du coup...
C'est mais dès les débuts, pour le tome 1, déjà, pour la série en général, on avait réfléchi, fait des brainstorming, où on échangeait plein d'idées, où on a piqué pas mal de fou rire en imaginant notamment des gags et des scènes... Et c'est comme ça que le premier brouillon de ce qu'allait devenir de Cap et de Croc a été fait, quoi. Après, moi, j'ai réfléchi de mon côté sur comment organiser ça de manière logique et pour avoir un vrai récit. Et puis après, ça a été remis sur le tapis, on en a rediscuté. Enfin voilà, il y a toujours eu beaucoup d'échanges. Et puis même après, au niveau des découpages, des crayonnés, en France, on échange beaucoup.
Donc, beaucoup d'échanges, et au niveau des... vous aviez parlé de jeux de rôle un peu tout à l'heure, est-ce que vous avez pensé à une adaptation de cet univers-là? Un jeu tout fait, comme il en existe déjà, ou pas?
Au départ, on en avait un, donc moi, au tout début, mon ambition, moi, c'était de le mettre au propre. J'avais commencé à rédiger avec Jean-Yves, ouais. On avait commencé à bosser dessus. Avec Jean-Yves Gobert, un ami qui jouait le renard d'ailleurs dans le jeu de rôle, et qui a été aussi à l'origine de certaines idées de l'histoire,
ouais.
Et qui vient de faire la traduction en gascon, qui vient de réaliser la traduction en langue gasconne de Cap et de Croc, enfin les deux premiers tomes, et qui ça vient d'être publié. C'est assez marrant parce que le renard est d'origine gasconne dans l'histoire, comme tout bon cadet de Gascogne qui se respecte. Et donc bref, avec Jean-Yves, on avait commencé à rédiger les règles du jeu, à mettre au point les règles du jeu. On avait un énorme pavé, mais au bout d'un moment c'est tellement laborieux et c'est tellement prenant au niveau temps, et finalement, comme tu disais tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui prenaient l'univers et qui l'adaptaient avec leurs propres règles et qui n'avaient pas besoin qu'on leur en écrive des spéciales. Donc
des gens qui arrivaient, on a adapté, on est joueurs de donjon et on a adapté votre jeu, hein. Donc du coup ma copine joue une belette et moi je joue un chat. Donc on s'est dit, c'est bon, les gens ils ont suffisamment d'imaginaire pour jouer ça avec d'autres règles, on n'a pas en plus leur imposer de nouvelles règles de jeu, genre tentative de coup avec un dessin, tentative de machin chose avec un dévain, ça c'est super fastidieux, donc il vaut mieux que les gens se l'approprient, jouent, partent en live là-dessus, puis voilà.
Et est-ce que la série pourrait se prêter à d'autres adaptations, je sais pas, au cinéma ou sous d'autres formes
Cinéma peut-être, mais il faut un budget colossal. Donc pour l'instant, enfin, même plus que colossal, parce que...
Je vois pas grand monde qui pourrait, qui pourrait nous financer ça, vu le nombre de millions de dollars.
Spielberg a renoncé.
Ouais, voilà.
Peut-être, oui, on a déjà eu quelques propositions, mais le problème c'est que c'est tellement titanesque. Pour l'instant, les adaptations qui nous ont vraiment convaincus, c'est les adaptations théâtrales, parce qu'il y a une dimension théâtrale dans Des Capes de Croc, même si c'est une BD à grand spectacle. Le théâtre a cette magie de la suggestion qui fait qu'avec trois bouts de ficelle, un rideau et un tonneau et un tabouret, on vous reconstitue un navire. Et la mer, l'océan et déchaîné qui va avec. Quoi. Enfin, c'est la magie du théâtre de d'arriver à suggérer avec très peu de moyens et finalement
c'est, ça, c'est le plus beaucoup de moyens ou très peu.
Voilà.
Donc du coup, il faudrait ou un énorme budget au cinéma ou alors très peu au théâtre. Ça a déjà été fait et tant mieux, ça marche impeccablement.
Quoi qu'au théâtre, on a quand même eu droit à du gros budget parce qu'on a fait la pièce qui a été jouée à Vaux-le-Vicomte. Oui. Il y avait beaucoup de figurants, il y avait des chevaux, des carrosses. Des canons,
un château,
un vrai château derrière. C'était très spectaculaire.
Mais non, au cinéma, et puis on a déjà des petites maisons de production qui nous ont contactés, comme ça, on a déjà travaillé dans le dessin animé sur les séries, on sait ce que ça comporte de...
Alors, pourquoi pas, mais pour l'instant...
De violations au niveau de l'histoire,
pour l'instant,
les producteurs qui s'approprient les trucs, qui les changent sans vous demander votre avis, donc...
Ouais, mais c'est vrai que pour l'instant, on trouve ça. Enfin, c'est vrai que Des Capes de Croc, c'est voilà, il faut des planètes entières à reconstituer. Ça fait du travail.
Effectivement. Et donc un peu plus. Quels sont vos projets alors pour la suite? Qu'est-ce qui donc le diptyque.
Misez par le diptyque de Zeb.
Oui.
Moi, je travaille sur le troisième tome de D, scénario du troisième tome de D, la série vampirique que je fais avec Bruno Majorana, qui était aussi le dessinateur de Garulfo. Donc, troisième et dernier tome de cette histoire sombre et gothique. Brrr.
Et. Non, c'est tout. Ouais.
Et je travaille aussi sur un projet solo qui s'appelle L'âge des chiens, qui est une histoire d'horreur fantasy que je vais dessiner moi-même. Donc c'est de rock fantasy, mais avec ce qu'il faut de décalage et d'étrangeté pour que ce soit original, je pense.
Et moi, en tant que scénariste, je travaille avec un dessinateur qui est aussi le coloriste de D, Thierry Prévost.
C'est une petite famille.
Ouais, voilà, et un copain d'Angoulême, et qui s'appellera Monster Club, et c'est une histoire de cryptozoologue aux alentours des années 1880, avec deux clubs de cryptozoologie qui se tirent la bourre pour pouvoir baptiser leur club Monster Club et qui partent à l'aventure en Sibérie, donc ça va être aussi... Et puis j'ai sorti aussi le deuxième tome d'Empire Céleste, ça date du Festival d'Angoulême, donc fin janvier, avec Mintan.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour toutes ces réponses intéressantes et... En espérant vous lire de nouveau dans les prochains albums.
Ça ne manquera pas.
Voilà. Merci beaucoup.
Oui,
au revoir.
Au revoir.